Sajot et ses castors par Gray Hall, sixième cassette, deuxième face, page 197. Pendant ce temps, Chilaoui passait de délicieux instants sur le parquet dans une cuvette en fer blanc. Une autre jouissance s'offrait à lui sous la forme d'une miche de pain due à la générosité du directeur. La partie qu'il n'avait pas pu manger se transformait peu à peu en une masse molle et poisseuse, et la descente de lit qui servait de théâtre à ses exploits ne s'en trouvait pas trop bien, vous pouvez m'en croire. Aucun d'eux ne put dormir cette nuit-là. Le petit castor, parce qu'il trouvait bien trop de choses intéressantes à examiner sous les lits, dans le placard à vêtements et dans tous les coins. Les enfants, parce que le lendemain allait être ce jour glorieux pour lequel ils avaient tant peiné, traversé tant de dangers et qu'ils attendaient depuis si longtemps. Demain, ils reprendraient Chicanille. Ni l'un ni l'autre ne se laissait arrêter par la pensée que les gens du parc leur refuseraient peut-être, qu'ils ne consentiraient point à laisser partir le petit castor qui était maintenant leur propriété. Si Chapian avait à cet égard quelques appréhensions, Sajot, sûr de la réalisation de son rêve, n'éprouvait là-dessus aucun doute et disait « Demain, nous aurons Chicanille, je le sais. » Chapitre 15. Le bien que vous ferez à l'un de ces petits. De bonne heure le lendemain matin, Patrick Aurélie vint chercher ses protégés ainsi qu'il l'avait promis. Mais au lieu d'aller directement au jardin zoologique comme il s'y attendait, Sajot et Chapian furent conduits à une grande maison de la ville où les propriétaires du parc avaient leur bureau. Redoutant qu'au dernier moment quelque accident ne lui fît perdre son argent, Chapian passait souvent la main sur la bosse faite sous sa chemise par le petit sac en peau. Ils allaient en avoir bientôt besoin et cette pensée agitait le jeune garçon. De l'autre main, il tenait le panier de Chilaoui et tout près de lui, jamais à plus d'un mètre de distance, Sajot trottinait, la tête et les épaules enveloppées dans son châle. Ils firent en ascenseur une montée rapide qui ne leur procura aucun plaisir et se trouvèrent presque aussitôt avec l'Irlandais en présence d'un homme assis derrière un bureau. Et c'était cet homme qui tenait entre ses mains le sort de leur petit ami perdu. Sajot, qui jusqu'ici avait mis une telle foi en son rêve, éprouva soudain de l'inquiétude, de la crainte, et se mit à trembler comme une feuille. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il ferait si leur offre était rejetée. Maintenant que le moment décisif était arrivé, elle avait envie de crier et de s'enfuir. Cependant, elle demeura bravement sur ses positions, résolue à aller jusqu'au bout, quoi qu'il advînt. L'individu assis derrière le bureau était un petit jeune homme pâle qui avait une figure maigre et un menton sans caractère. Au coin de sa bouche pendait une cigarette à demi consumée. Il tenait un œil hermétiquement clos pour n'y pas laisser pénétrer de fumée et promenait l'autre autour de lui, ce qui lui faisait faire une assez vilaine grimace et par moments lui donnait l'air de loucher. Il leur parla sans retirer sa cigarette de sa bouche, pendant que l'œil qui était ouvert, un œil décoloré et fort peu sympathique en vérité, les examinait de côté avec un regard dur. « Que voulez-vous ? » demanda-t-il brièvement. Un silence suivit. Un lourd silence. Je crois bien que Sajot et Chapian s'étaient même arrêtés de respirer. Alors, faites excuse, commença Patrick le policeman, mais le fait est que j'ai téléphoné à M. Henderson hier soir, rapport à mes jeunes amis que voici. Et nous devions le voir ici pour causer sensément de notre petite affaire. Vous pouvez traiter cette affaire avec moi, interrompit le jeune homme d'un ton dénué de courtoisie. Monsieur Henderson est occupé pour l'instant. Tout en parlant, il jetait un coup d'œil vers une porte qui conduisait dans une autre pièce et qui était légèrement entr'ouverte. « Alors, vous comprenez, » commençait Pat, lorsque le jeune homme regarda sa montre-bracelet et l'interrompit de nouveau en disant
« Faites vite, monsieur l'agent, j'ai fort à faire ce matin. »
Patrick rougit un peu et reprit son exposé, cette fois sans être interrompu. La veille au soir, il s'était soigneusement exercé à faire le récit de cette histoire qui, ainsi qu'il l'avait dit à la gare, devait arracher des larmes à un cœur de pierre. Apparemment, le jeune homme n'avait pas un cœur de pierre car il ne versa pas la moindre larme. Pendant que Pat discourait, cet homme pressé consulta plusieurs fois sa montre et alluma une nouvelle cigarette au débris de l'ancienne demeurée au coin de sa bouche. Non seulement il n'avait pas un cœur de pierre, mais selon toute apparence, il ne devait pas avoir de cœur du tout. Aussi l'honnête policeman, perdant peu à peu courage, termina-t-il son récit assez court. « Donc ces jeunesses veulent vous racheter la bestiole en question ?» Et je me permettrai de dire que vous ferez la volonté du bon Dieu Tout-Puissant en la leur rendant. » Sur quoi, ayant fait de son mieux, il s'épongea nerveusement le front avec le grand mouchoir rouge. L'homme rangea quelques papiers sur le bureau et se renversa en arrière sur son siège.
« Vous avez fini ? » interrogea-t-il froidement.
« Oui, » répondit Pat sans entrain. Car il commençait à craindre, avec quelque raison, d'avoir perdu la partie.
« Bon, » fit l'employé, « eh bien, laissez-moi vous dire... »
Les mots tombèrent comme des morceaux de glace sur une assiette en verre.
« Que ce castor a été acheté d'une façon parfaitement correcte, non point à ces jeunes gueux, mais à un honorable commerçant. Nous l'avons payé $50, bien plus cher qu'il ne vaut, et nous n'avons aucune intention de le revendre, à moins de réaliser un honnête bénéfice. Or, » ici son regard se posa sur les deux petits Indiens, « je ne pense pas que ces jeunes peaux rouges, vos amis comme vous dites, roulent sur l'or à en juger par les apparences. »
Pat rougit encore davantage, mais supposant avec sagacité que l'argent seul signifiait quelque chose pour ce garçon positif, il poussa Chapian en avant.
« L'argent !» lui chuchota-t-il d'une voix enrouée. « L'argent, vite, donne-le maintenant !»
Et Chapian, défaillant de peur, car il avait presque tout compris, fit un pas en avant, fouilla un instant dans le petit sac et laissa tomber sur le bureau la liasse de billets. L'employé la prit, compta la somme et fit la grimace.
Il n'y a là que $14, dit-il en repoussant les billets. Rien à faire.
Et pour être sûr que chacun sût à quoi s'en tenir, il ajouta :
l'affaire est à l'eau. Pas vendre. Rien à faire. Rien. Compris ?
Oui. Tous l'avaient compris. Personne ne parla, personne ne bougea. Pour Chapian, c'était l'effondrement total.
Quoi ? Était-ce possible ?
Il lui sembla subitement que le silence l'étouffait, que la figure pâle de l'homme grandissait, grandissait, se précipitait sur lui, que le parquet s'enfonçait sous ses pieds. Allait-il tomber comme une femme, s'évanouir comme une faible fille ? Il ferma les yeux pour ne plus voir cette face blême et flasque, et cet œil unique qui le regardait en dessous avec une expression moqueuse. Il grinça des dents, serra les poings, raidit son jeune corps pour reprendre l'attitude droite et fière qui lui était habituelle, et son vertige disparut, le laissant tout frissonnant. Pendant ce temps-là, le policeman demeurait sur place, interdit, consterné, essuyant sa tête chauve, et marmottant d'une voix enrouée.
« Ah, quel malheur ! Ah, quelle pitié ! C'est moi qui n'ai pas su m'y prendre. J'ai trahi leur confiance. Ah, mon vieux cœur en sera triste plus d'un jour. »
Et s'ajoute. Elle avait tout observé avec une douloureuse anxiété, son regard voyageant d'une figure à l'autre. Elle avait tout vu. Point n'était besoin de rien lui dire. Ils avaient échoué. En 2 minutes à peine, ils avaient échoué. Elle approcha sans bruit de Chapian.
« J'ai compris, mon frère, » dit-elle très bas d'une petite voix si singulière que Chapian la regarda vivement et l'entoura de son bras.
Les yeux levés vers son visage, Sajot continua en s'appuyant contre lui.
« Je sais maintenant qu'il ne veut pas nous donner Chicani. C'est moi qui n'avais pas bien compris mon rêve. Nous ne sommes pas venus à la ville pour reprendre Chicani. Je crois maintenant que c'est plutôt pour lui amener Chilaoui. Voilà sans doute ce que ma mère voulait dire. Comme cela, ils seront ensemble. Ils ne se sentiront plus jamais seuls. Ce sera mieux ainsi. Alors,
la voix enfantine faiblit, la petite tête brune s'inclina et Sajot acheva dans un murmure.
« Dis à cet homme que je lui donne aussi Chilaoui. »
Elle posa le panier de Chilaoui sur le bureau et recula, blanche comme un linge, les lèvres pâlies, fixant le panier avec de grands yeux sans larmes. Aurélie, frappée de stupeur, avait cessé brusquement ses lamentations. Que se passait-il ?
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
s'exclama l'employé d'un ton irrité. Chapian prit la parole. « Un autre castor, dit-il, Chilaoui, son frère, Chicani, très seul, très triste. Prenez Chilaoui avec lui, alors plus jamais seul, plus jamais triste. Voilà les paroles de ma sœur. Moi, » sa voix s'étrangla dans sa gorge et il ne put en dire davantage.
« Allons, » dit l'employé qui souriait pour la première fois et son sourire ne l'embellissait guère. « Ceci est une autre paire de manches. Nous allons nous entendre très facilement. »
Tout en parlant, il tendit la main vers son porte-plume.
« Non !» tonna soudain l'agent de police d'une voix terrible en donnant sur le bureau un coup de poing retentissant qui fit tout sauter en l'air, et les assistants et les objets du bureau, en criés presse-papier, crayon. Et le jeune homme pâle, devenu lui-même encore plus blême, et jusqu'à sa cigarette qui tomba de ses lèvres sur le parquet. « Non, vous ne ferez pas cela !» rugit Pat d'une voix formidable. « Jamais un fils des oreillers ne consentira à voir de malheureux mioches sans défense, brimés et dupés sous ses yeux, par vous, par des gens de votre espèce. « Vous n'êtes qu'un coquin !» hurla-t-il. « Et moi, officier de police, je vous arrête pour conspiration, agissement frauduleux, inconduite, vol à main armée, menace et voie de fait !»
Achevant ici sa liste d'accusations les plus retentissantes, il contourna le bureau et fonça avec des grognements furieux sur le jeune homme épouvanté qui reculait en hâte dans la direction de l'autre pièce pendant que Sajot et Chapian contemplaient cette scène avec des yeux ronds. Ce qu'entendait faire ce fils irascible des oreillers, personne ne le sut ni le ne le saura jamais. À cet instant, l'autre porte s'ouvrit, la retraite du jeune homme en fuite se trouva coupée par un nouveau personnage contre lequel il se buta, et une voix douce dit « Excusez-moi !» tandis qu'un vieux monsieur, mince et grisonnant, faisait son apparition dans la pièce. Il considéra ce spectacle surprenant par-dessus ses verres de lorgnon, toussa légèrement et répéta.
« Excusez-moi si je parais vous déranger. Voulez-vous vous asseoir ?» proposa-t-il avec beaucoup de politesse.
Pat, encore haletant de colère, fixait son regard flamboyant sur l'homme qu'il voulait arrêter. Celui-ci n'était pas très sûr de n'avoir pas commis quelque crime et ses mains tremblaient pendant qu'il cherchait dans sa poche une autre cigarette.
Asseyez-vous, je vous en prie, messieurs, redit de nouveau le monsieur aux cheveux gris. Ils s'assirent. On avait l'impression qu'il fallait obéir à ce gentleman aux manières paisibles. C'était monsieur Henderson lui-même, le propriétaire du parc. Maintenant, reprenons la discussion de l'affaire, proposa-t-il en promenant son regard de l'agent de police à l'employé, de l'employé aux enfants et le ramenant sur l'agent de police. Monsieur l'agent, je vous ai promis hier au téléphone d'écouter l'histoire de ces enfants et de voir ce que l'on peut faire pour eux. J'ai tout entendu de l'autre pièce, beaucoup mieux que si j'avais été ici, car certains incidents se sont produits qui sans cela n'auraient pas eu lieu. À présent, je connais toute l'histoire et je vois que les choses ne vont pas être commodes à arranger. Pour moi. À ces mots, l'employé regarda autour de lui d'un air satisfait, comme pour dire « Là, qu'est-ce que je vous disais ?» Monsieur Henderson, lui aussi, jeta un regard circulaire en tapotant son genou avec son lorgnon. « Tout le monde écoute, j'espère, » continua-t-il. On voyait bien qu'il avait l'habitude de se faire écouter. Il plaça son lorgnon, qu'il tenait entre le pouce et l'index, devant l'arête fine de son nez, à la hauteur de ses yeux, et considéra attentivement tous ses auditeurs à tour de rôle. Son regard était très perçant, trouvèrent les enfants, et sans rapport aucun avec sa voix. « Bien, » dit-il en constatant que tout le monde attendait ce qu'il allait dire. « Très bien. » J'ai donc compris que ces jeunes Indiens offraient de donner leur second castor apprivoisé pour que les deux petites bêtes soient réunies, ce qui me prouve leur sincérité. Mais il y a eu un autre côté de la question à considérer, celui qui me concerne. Ainsi que Georges ici présent le disait tout à l'heure, il s'agit d'une affaire conclue selon toutes les règles et qui m'a coûté une importante somme d'argent. Je ne peux pas prendre si rapidement une décision. D'autre part, il n'est pas bon pour les gens, en particulier pour les jeunes gens, d'obtenir tout ce qu'ils demandent, à moins toutefois qu'ils ne l'aient mérité. Et il regarda gravement les enfants à travers son lorgnon qu'il avait remis sur son nez. « Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez faire ?» demanda Oreiller avec inquiétude, souhaitant à part lui que le vieux monsieur cessa de tripoter son lorgnon et revint à ses moutons. Mais monsieur Henderson se tourna vers son employé. « Vous êtes un bon homme d'affaires, Georges, » dit-il. « Presque trop bon, me semble-t-il, parfois. »
« Je ne faisais que mon devoir, » répondit Georges avec quelque vérité.
« Votre devoir, oui, peut-être, » prononça lentement M. Henderson, qui se perdait dans ses pensées. « Enfin, peu importe. »«
Mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire ?» demanda de nouveau Pat étouffant d'impatience.
« Ce que je veux faire, » reprit l'exaspérant vieux monsieur. « Ce que je veux faire. Ah oui, je crois que ma décision est prise et elle est toute simple. » Il souleva le panier de Chilaoui et fit signe aux enfants de le reprendre. « Tenez, » dit-il avec bonté, « voici votre petit ami. » Puis, retrouvant tout d'un coup sa vivacité d'homme d'affaires, il griffonna quelques mots sur une carte qu'il tendit ensuite à Pat. « Et maintenant, mes enfants, allez au parc avec Oreiller pour chercher l'autre castor. Il est à vous. Assurément, vous l'avez bien gagné. » Le regard fixe, la bouche ouverte, Chapion se demandait s'il avait bien entendu. Était-il encore le jouet d'un rêve de Sajo ? Ou peut-être,
de l'un de ses rêves à lui. Quant à Sajo, elle était parfaitement éveillée. Elle lui prit vivement des mains le panier de Chilaoui en criant tout excité. « Dis-moi, dis-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voyant que les enfants ne l'avaient pas bien compris, M. Henderson allait reprendre la parole quand Patrick O'Reilly, brûlant de leur apprendre lui-même la bonne nouvelle, s'écria vivement. « Excusez, monsieur, mais je parle un peu leur langue. » Et se tournant vers Chapian. « Lui, très bon, » dit-il en administrant à M. Henderson quelques bonnes tapes dans le dos, si bien que le digne homme, pris par surprise, faillit tomber en avant et perdit son lorgnon au grand soulagement de tous. « Lui, très bon. Lui, grand chef. » Ici, il donna au vieux monsieur interdit un coup dans l'estomac qu'il renvoya en arrière. « Grand chef, bon, très bon. Moi, c'est une langue difficile, monsieur, vous savez. Vous emportez Castor tous les deux, vite, vite, compris ?» Et terminant dans son meilleur indien, « Keget, keget !» Il se tourna triomphalement vers M. Henderson et ajouta, « Chez les oreillers, monsieur, on a toujours été doué pour les langues. » « En effet, dit M. Henderson, très certainement, cela ne fait pas de doute. » Il souriait en reconduisant ses heureux visiteurs. Il souriait encore tout seul après avoir refermé la porte. La partie avait été très amusante à jouer, bien qu'en fin de compte, ce fût lui le perdant. Il se frottait les mains joyeusement, comme s'il venait de conclure un marché des plus avantageux. Je doute que Chapian et Sajo aient remarqué grand-chose pendant le trajet qu'ils firent pour se rendre au parc, jusqu'au moment où Pat leur en désigna l'entrée qu'on apercevait à une petite distance. Alors Sajo se mit à courir. Elle n'était plus pâle maintenant. Et ses yeux, qui étaient tout à l'heure si secs et si fixes, étaient devenus tout lumineux. Son châle glissa sans qu'elle y prît garde. Ses nattes s'échappèrent et se mirent à danser sur ses épaules, tandis que ses petits pieds, chaussée de mocassins, rebondissait légèrement sur le trottoir. Derrière elle courait Chapian, qui ne pouvait pas aller aussi vite à cause du panier qu'il transportait et dans lequel Chilaoui, fatigué d'être emprisonné depuis si longtemps, faisait une vie de tous les diables. Puis venait le courageux monsieur O'Reilly, la figure cramoisie, son casque à la main, tamponnant le crâne qui depuis 20 ans était aussi chauve qu'un œuf, avec son vaste mouchoir rouge, tout en soufflant comme un remorqueur qui serait légèrement asthmatique. Pour commencer, il mugit. « Eh bien quoi, c'est une course alors ?» Mais les enfants ne ralentissaient pas leur train. L'avait-il même entendu ? Il se mit à grommeler. « Les petits païens, ils me feront mourir, c'est sûr !» Mais il maintint vaillamment son allure. Des gens s'arrêtèrent pour regarder passer ces jeunes Indiens, vêtus comme dans leur forêt, qui couraient à toutes jambes, suivis d'un agent de police, qui, selon toute apparence, leur donnait la chasse. Ils entendirent aussi les cris aigus et les gémissements qui sortaient du panier, car Chilaoui protestait de toutes ses forces contre les secousses que lui valait une telle précipitation. Si bien que quelques promeneurs changèrent de direction pour se joindre à cet étrange cortège et suivirent la fillette aux cheveux noirs qui courait si vite. Et loin, très loin en arrière, venait un homme grand au teint basané qui avançait d'un pas à la fois alerte et silencieux à travers les rues de la ville. Il avait l'air si sombre et si sévère que les gens préféraient s'écarter pour le laisser passer et se disaient les uns aux autres en le regardant « Qui est-ce donc? De quelle race est cet homme ?» Mais lui ne regardait personne. Il y eut un instant d'attente à l'entrée du parc qui n'était pas encore ouvert. Mais O'Reilly, ayant rejoint les enfants, montra sa carte et on les fit entrer. Le groupe nombreux de curieux qui s'était formé derrière eux pénétra à leur suite dans le parc dès que les portes furent ouvertes. Le gardien, qui n'était autre que notre ami Alec, savait déjà ce qu'il devait faire, car M. Henderson s'était décidé au dernier moment à venir lui-même. Il avait donné ses instructions et se tenait maintenant au milieu de la foule. Sur un signe qu'il fit, le gardien conduisit tout de suite Sajo vers la cage du castor. La petite fille était redevenue subitement
aussi pâle qu'un spectre. Il lui semblait qu'elle parcourait un grand espace vide, au bout duquel, à des kilomètres de distance, se dressait une rangée de barreaux de fer sombres et laids. À présent, elle commençait à voir à travers les barreaux, et il y avait là, oui, il y avait là une petite bête à fourrure brune, assise au milieu de l'enclos et... Oh, était-ce bien lui? Oui, c'était Chicani. Sajo, perdant toute timidité, oublia les gens qui la regardaient, oublia la ville bruyante, oublia tout, sauf la petite créature fourrée qui était maintenant si près d'elle. Elle se précipita vers la clôture de fer, tomba à genoux sur le gravier et, passant ses deux bras entre les barreaux, cria « Chicani! Chicani! Chicani !» Incrédule, le petit castor regarda autour de lui sans bouger. « C'est moi, Sajo, Chicani !» Ce cri était presque un gémissement. Oh, avait-il oublié? Un moment encore, le petit animal resta immobile comme une statue, sa tête ronde inclinée de côté, l'oreille tendue. Sajo cria de nouveau « Chicani !» Cette fois, il comprit. Avec d'étranges petits cris de gorge, il se hâta vers la barrière aussi vite que ses courtes pattes le lui permettaient. Un hourra se fit entendre et un léger mouvement se produisit dans la foule des spectateurs. Alec, le gardien, arrivait en cet instant. Il ouvrit une petite porte de fer et dit à Sajo « Par ici, miss, mamselle, señorita !» car il ne savait pas très bien comment l'appeler et se sentait lui-même très ému. Fin de la deuxième face de la sixième cassette, page 216, Sajo et ses castors, par Gray Hall.